grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani wa Makaran.
Le grand dialogue du Parlement avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux et l'appui financier de l'USAID.
Chenibiro.
Halud Mouni.
Chenibiri. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue. Nous sommes le vendredi 3 octobre 2014. Madame, Monsieur, bonsoir. Le grand dialogue du Parlement est à son 7e numéro. Voici les axes donc de ce débat, les sujets qui vont être traités dans ce débat, la probabilité de révision du mandat de la MINUSMA, le décryptage de la visite du Premier ministre Moussa Mara à Bruxelles et l'annonce de la rupture des négociations entre l'UNTM et le gouvernement. Nos invités pour parler de ces trois thématiques, Seydou Diawara du groupe Vigilance Républicaine et Démocratique, Zoumana Nti Doumbia du groupe Alliance pour le Mali et Seydou Dembélé du groupe parlementaire Rassemblement pour le Mali. Je suis Famoussa Sidibé et Salim Diawara est à la technique. Le 27 septembre dernier, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a appelé les groupes armés du Mali à déposer les armes et à régler leurs différends par le dialogue comme ils s'y sont engagés à Ouagadougou lors de la signature en juillet 2013 de la feuille de route. Profitant de sa visite à Bruxelles, le Premier ministre a déclaré qu'il y a nécessité aujourd'hui à faire le tri entre les groupes armés politiques et les groupes djihadistes afin d'aider le pays à retrouver sa stabilité. Nous allons donc décrypter tout cela et dans ce grand dialogue du Parlement en 45 minutes, la possibilité de révision du mandat de la MINUSMA. Pour rester dans l'actualité concernant ce thème, nous allons débuter avec l'annonce des 9 casques bleus morts ce matin suite à une embuscade terroriste sur la route Menaka en Songo. Les soldats de la paix doivent-ils revoir leur plan offensif comme le désire Hervé Latsou, secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix de l'ONU. Cette question s'adresse pour une première tournée à Zoumana Nti Doumbia du groupe Alliance pour le Mali.
Merci beaucoup. Je commencerai par m'incliner pieusement sur la dépouille de nos combattants nigériens disparus. Et cela montre à suffisance que ce que vous venez de dire est d'une importance capitale. Aujourd'hui, il est temps et grand temps pour que le mandat de la MINUSMA soit revu et que ça soit mieux renforcé pour lutter efficacement contre le terrorisme, le narcotrafic et même les groupes armés. Donc, je suis d'avis du sous-secrétaire général des Nations Unies qui demande à ce que le mandat de la MINUSMA soit revu et que ça soit renforcé.
Alors, est-ce que c'est sur cette même lancée que les autorités maliennes lui avaient emboîté le pas en demandant plus de robustesse au mandat de la MINUSMA lors de la visite du Premier ministre Moussa Mara à Kidal, Seydou Dembélé, du groupe parlementaire Rassemblement pour le Mali? C'est Seydou Diawara, du groupe Vigilance Républicaine et Démocratique. Excusez-moi.
Okay. Merci bien, M. Sidibé. Je m'associe aussi à cette douleur qui frappe encore les forces de défense des pays alliés. Et nous souhaitons vivement que leur sacrifice ne soit pas vain, en tout cas pour la liberté au Mali. Ça fait déjà un nombre important de victimes au sein des armées étrangères. Donc, ceci étant, je crois que c'est la nécessité aujourd'hui de réviser les mandats de la MINUSMA au Mali est plus que nécessaire. Je pense que rester sur une position défensive ou d'interposition, je crois que cela n'a plus lieu. Déjà avec toutes les victimes, malgré les cessez-le-feu que ces forces armées enregistrent, il est temps qu'on fasse droit à la situation du Mali, de réviser ses mandats et de donner plus d'allant à ses forces combattantes. Et il faut le dire, on doit l'envisager avec l'armée malienne. Je crois qu'on rentre là dans les débats sur le sujet.
Alors, Seydou Dembélé du groupe parlementaire Rassemblement pour le Mali, vous êtes au téléphone. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Sedou Dembélé, cette question des 9 casques bleus tués ce matin lors de cette embuscade terroriste pose aujourd'hui la question à savoir si la MINUSMA doit aujourd'hui avoir un mandat beaucoup plus robuste et offensif pour son maintien dans le nord du Mali. Pensez-vous que cela puisse se faire?
Merci bien. Je crois que cela est une nécessité. Mais bien avant, je voudrais m'incliner devant la dépouille de ceux qui sont morts pour notre liberté. Je pense que il faut faire le distinguo entre les groupes politiques qui ont des revendications et les djihadistes. Chaque fois qu'il y a conflit, en fait, ce sont les djihadistes qui infiltrent les autres populations. Il est donc important, dans ce cadre-là, de réviser le mandat de la MINUSMA pour permettre, pour renforcer, pour donner une autre autorisation que plutôt qu'une force d'interposition. Il faut que la MINUSMA soit capable d'être offensive. Il faut qu'elle se défende. Et en fait, ce sont plutôt les djihadistes qui interviennent ainsi. Merci.
Alors, merci beaucoup Sedou Dembélé du groupe parlementaire Rassemblement pour le Mali, RPM, parti du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Alors, Zoumana Ntchidoumbia, vous êtes du groupe Alliance pour le Mali, groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, certains observateurs disaient que le fait que le Tchad soit aux avant-postes aujourd'hui exposait trop le pays, car le contingent tchadien, car ce contingent avait participer à la libération des régions du Nord, alors qu'aujourd'hui, c'est la mort d'un tout autre contingent, le contingent nigérien. Est-ce que finalement, c'est toutes les composantes de la MINUSMA qui sont prises pour cible aujourd'hui par les terroristes?
En fait, cela montre à suffisance que tous les contingents de la MINUSMA sont pris à partie par les groupes terroristes. Cela encore pose l'impérieuse question, est-ce que la MINUSMA doit rester dans la défensive ou dans l'interposition? Comme l'a dit l'honorable Diawara, nous devrons aller plus. Les forces de la MINUSMA doivent être des forces offensives maintenant, au lieu que ça soit seulement des forces défensives. Vous avez tout dit.
Des
forces neutres, il ne saurait avoir de neutralité tant que les djihadistes et les narcotrafics continuent à semer la terreur. Donc, à ce niveau-là, je crois quand même que c'est des forces qui doivent être à l'offensive, en tout cas, qui doivent être sur le plan offensif maintenant, et non sur le plan défensif. Sinon, on ne voit pas trop l'intérêt, parce que vous remarquerez que malgré ce qui avait été fait avant, mais avec la transformation des différents trucs en MINUSMA aujourd'hui, et il y a le retour des forces terroristes dans le nord du Mali. Donc, il y a lieu, vraiment, il est urgent aujourd'hui de revoir le mandat de la MINUSMA.
Alors, Sedou Diawara du groupe Vigilance républicaine et démocratique, le secrétaire général des Nations Unies, au sortir d'une réunion avec le président Ibrahim Boubacar Keïta à New York, a demandé le désarmement des groupes armés. Ceci est-il une solution à ces attaques répétées contre les troupes de la MINUSMA?
Si, je dirais que c'est une étape, pas une solution. Je crois que ce désarmement avait été déjà annoncé depuis les accords de Ouagadougou. Je crois que si cela avait été fait, troupes cantonnées, désarmement effectué, n'en serons pas là aujourd'hui. Même pour les groupes qui se disent ayant des revendications politiques, ils ne peuvent pas faire la différence entre qui est djihadiste, qui ne l'est pas. C'est selon le gré des événements qu'il y a ces alliances-là. La majeure partie de ces djihadistes-là, ce sont des Maliens, ce sont des ressortissants des pays voisins au Mali, qui souvent sont alliés aux groupes qui se disent politiques, qui sont aussi membres des groupes djihadistes. Donc dans ces conditions-là, un élargissement du mandat de la MINUSMA est nécessaire, mais aussi il faudra prendre en compte comment on peut renforcer l'armée malienne. Je crois que ça, c'est un passage obligé. On a vu déjà avec la force Eva, dans la récupération des territoires occupés, quel a été le rôle de l'armée malienne. Cet effort a été arrêté quand il s'agissait de Kidal. Pour quelles raisons? Ça, je ne saurais répondre à cela. Mais une révision du mandat de la MINUSMA doit forcément s'accompagner d'une remise de l'armée malienne en état de défendre le territoire national. Pour défendre cela, je pense qu'il est nécessaire de se doter d'un outil. Le Premier ministre, lors de sa déclaration de politique, a parlé d'une loi de programmation militaire. C'est aujourd'hui un outil indispensable. Il faut avoir, ça donne une visibilité par rapport à nos objectifs, nos besoins en hommes, nos besoins en normes et nos besoins même en formation tactique de terrain. Donc, avec l'assistance de la communauté internationale, je pense qu'on peut bâtir une armée qui peut s'associer aux forces internationales pour assurer la défense du territoire malien.
Alors, Seydou Diawara du groupe Vigilance Républicaine vient de parler aujourd'hui, tout à l'heure, de cette déclaration du secrétaire général des Nations Unies concernant le désarmement des groupes armés au nord. Seydou Dembélé du groupe parlementaire Rassemblement pour le Mali, vous êtes en ligne, vous représentez le RPM à ce débat. Cette déclaration du secrétaire général des Nations Unies est venue après la grogne du Tchad concernant plus de protection pour ses soldats. Aujourd'hui, c'est le Niger qui est ciblé. Est-ce qu'il faut s'attendre à une autre grogne d'autres pays dont les troupes sont au Mali?
Bon, on ne peut pas préjuger de tout ce qui peut se passer dans ce cas de figure. Mais ce qui est sûr, les forces alliées au Mali sont tous exposées de la même manière. Mais en fait, ils font cela, c'est pour les démotiver. Ces pays-là à retenir en fait leurs troupes. Et la solution se trouve dans la révision du mandat de la MINUSMA. Il faut que l'on donne un mandat offensif à la MINUSMA. Parce que les forces sont sur le terrain et que l'on demande aux forces rebelles de déposer les armes, d'être cantonnées, elles se refusent à cela. Elles font des attentats, minent le terrain. La seule façon de réagir, c'est d'attaquer. Il faut que ce mandat soit donné à la MINUSMA pour résoudre ce problème-là. Mais dire que d'autres grognes sont possibles, bon, je ne l'envisage pas. Mais dans tous les cas, il faut laisser le soin à toutes les troupes qui sont sur le terrain d'aller à l'offensive plutôt.
Alors, Zoumana Ntidoumbia, vous êtes de l'Alliance pour le Mali, groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Un mot sur cette parenthèse sur les éventuelles grognes qu'il peut y avoir au sein des nationalités représentées au sein de la MINUSMA.
Bon, je crois que on ne souhaiterait pas quand même qu'il y ait d'autres grognes. Mais tout porte à croire qu'il faudrait quand même qu'on aille vers, en tout cas, un autre mandat pour la MINUSMA. Un autre mandat qui puisse permettre aux forces de la MINUSMA de mener l'offensive. Et l'honorable Diawara l'a rappelé. Il ne faudrait pas aussi oublier les forces de défense et de sécurité du Mali. Donc, une combinaison des deux. Et aussi et surtout, il faudrait retenir que les groupes armés doivent être désarmés. C'était l'une des...
Y compris les groupes d'autodéfense.
Y compris les groupes... La loi est très claire au Mali. Pour porter une arme, il faut être des forces de défense et de sécurité. Donc ça ne peut pas être autrement. Que ce soit les forces de défense, que ce soit les groupes armés, soi-disant, en passant, les forces d'autodéfense sont là parce que les groupes armés ne sont pas désarmés. Donc, moi, je crois que...
Que l'armée régulière n'est pas aussi présente sur le terrain.
Oui, ça, il faut reconnaître que dans certains endroits, l'armée régulière n'est pas présente. Mais cela est dû aussi au fait que les groupes armés ne sont pas désarmés. Quand bien même que dans toutes les résolutions des Nations Unies et de la communauté internationale, il a été toujours dit, et même dans l'accord de Ouaga, qui sert de levier à tout ça, il a été dit et redit que les groupes armés devraient être désarmés. Donc, moi, je pense que la combinaison des trois, le désarmement des groupes armés, le renforcement des capacités de nos forces de défense et de sécurité, et avec une révision du mandat de la MINUSMA, nous serons à même de juguler cette crise qui sévit au nord du Mali.
Nous allons observer quelques secondes de pause avant la deuxième partie de ce débat.
Vous écoutez Studio Tamani ? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Vous êtes donc dans la deuxième partie donc de ce débat, septième numéro du débat du Parlement. Et n'oubliez pas de faire un tour sur notre page Facebook Studio Tamani pour réagir à ce que vous entendez en longueur de journée sur les productions du Studio Tamani. Ce second volet est consacré au décryptage de la visite du Premier ministre Moussa Mara à Bruxelles. Pour en parler, nos invités, Sédou Diawara du groupe Vigilance Républicaine et Démocratique, Zoumana Ntidoumbia du groupe Alliance pour le Mali, Sédou Dembélé par téléphone du groupe parlementaire Rassemblement pour le Mali. Le décryptage donc de la visite du Premier ministre Moussa Mara à Bruxelles. Alors, peut-on croire que la confiance des partenaires est de retour, Sédou Diawara du groupe VRD?
Bon, je pense que nous le souhaitons vivement. Le rapport du Mali avec les partenaires, je crois qu'il y avait eu un gel à un moment donné par rapport à des constats. Et si nous nous référions, en tout cas, à tout ce qui circule comme information par rapport à la suite de FMI, même si on pense que les problèmes sont aplanis, je crois qu'il y a des mesures fortes qui ont été édictées. Je crois que dans la gestion publique, il faudra éviter tout ce qui peut créer un doute. Je crois que c'est ce qui nous a amené à cela. Maintenant, ces doutes, ils ont été levés, je ne saurais répondre à cela, parce que tout ce qui faisait comme point de récrimination devait être soumis à un audit. Certainement, c'est la mission qui a eu à apprécier, en tout cas, les rapports provisoires de cet audit. Sans ce rapport, je ne saurais m'aventurer sur ça, mais quand même, c'est assez révélateur de la prudence que le gouvernement doit observer par rapport à la gestion des deniers publics. Je crois qu'en son temps, on l'avait assez dit, certainement on n'avait pas été compris dans d'autres circonstances. Pendant la DPG, pendant le collectif, on avait vraiment attiré l'attention du gouvernement par rapport à certains aspects du budget qui, pour la circonstance, n'y sied pas aujourd'hui. On doit faire preuve de prudence, on doit faire preuve de régularité et quand même pour gérer le déni public. Et il y a beaucoup d'aspects qui annonçait déjà que ces difficultés-là avec les partenaires.
Alors, la gestion des finances publiques, justement, il y a 15 contrats qui ont été pratiquement annulés après le passage du FMI au Mali, notamment des contrats concernant le ministère de la Défense. Aujourd'hui, l'ancien ministre de la Défense, Soumaïlou Boubé Maïga, est en garde à vue à Nanterre, en France, dans le cadre de l'enquête supposée contre de corruption visant l'homme d'affaires Michel Tomé. Pensez-vous qu'il y a une quelconque implication là-dessus?
Bon, je ne fais pas de lien entre les rapports des partenaires du Mali avec l'affaire dit Tomé. Vraiment, nous entendons par voie de presse ce que cela veut, c'est en tout cas un volet de lutte contre la délinquance financière au niveau international. Je ne peux pas les lier au rapport de partenaires avec le Mali. Maintenant, les contrats annulés dont vous parlez, si tout cela s'était passé dans un cadre transparent...
Pensez-vous qu'il n'y a pas eu transparence?
Non. Dès l'instant qu'on va dans un marché de gré à gré, avec des montants importants, il n'y a pas de doute. C'est le lit à tous les doutes. Tant qu'il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de transparence. La gestion des finances publiques s'inscrit dans un cadre normatif budgétaire qui doit être respecté. Quelle que soit la motivation de la dépense, elle doit respecter les principes budgétaires. Je crois que ça, c'est important. Dès que cela n'est pas fait, nous favorisons tous les soupçons.
D'accord. Alors, Zoumananti Doumbia, vous êtes du groupe Alliance pour le Mali. Avant de vous donner la parole, je fais réagir tout juste après Seydou Diawara, Seydou Dembélé du groupe parlementaire Rassemblement pour le Mali. Alors, pensez-vous, Monsieur Dembélé, que les partenaires, la confiance est de retour?
Bon, je pense très sincèrement que cette confiance est de retour. Parce que eux-mêmes ils l'ont dit, les partenaires ont parlé de retour de la confiance, et après les vérifications qui ont été faites, et au terme de la vérification, ils ont bien dit que la confiance est de retour. Et c'est ce qui nous donne espoir.
Alors, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, avait dit que certains marchés, pratiquement tous les marchés en cause, étaient attribués dans les règles de l'art, alors que l'opposition aujourd'hui a des doutes sur le passage de ces marchés publics. Pensez-vous qu'elle a des raisons de douter de la forme?
Bon, l'opposition pense que ces marchés n'ont pas été, des marchés n'ont pas été donnés dans la forme de l'art. Bon, elle a ses raisons. Mais puisque le président lui-même a attesté que les marchés ont été donnés dans les règles de l'art, et après vérification, les vérificateurs ont dû annuler les marchés. C'est un souci de transparence dans tous les cas. C'est un souci de transparence qui montre à suffisance que nous voulons aller dans le sens de ce qui est clair.
Alors pensez-vous que...
Il n'y a pas d'ombre.
Pensez-vous que les malentendus avec le FMI sont dissipés?
Oui, je le pense.
D'accord. Alors, Zoumana Nti Doumbia, vous restez avec nous, Seydou Dembélé. Zoumana Nti Doumbia, vous êtes du groupe Alliance pour le Mali, groupe parlementaire aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Après cette confiance des partenaires, pensez-vous que les marchés publics en cause aujourd'hui ont été attribués, comme vous l'avez entendu de la bouche du RPM tout à l'heure, dans les règles de l'art?
Je tiens d'abord à féliciter le gouvernement parce que c'est pour une première fois qu'un gouvernement se soumette en tout cas à des obligations du FMI et qui au préalable avait pris le devant pour demander au vérificateur général, aux structures de contrôle, notamment la section des comptes de la Cour suprême, de vérifier s'il y a eu entorse ou pas aux règles d'attribution du marché. Donc, c'est le lieu pour moi de féliciter le gouvernement. Mais au-delà de ça, je pense que ce soit le FMI ou toute autre entité, c'est l'argent du contribuable d'autres pays qui servent quand même à donner une bouffée d'oxygène aux pays en difficulté comme le nôtre. Donc, tout centime qui doit être utilisé doit arriver au véritable destinateur. Donc, je ne suis pas contre le fait que le FMI demande des comptes au gouvernement malien. Et je pense aussi qu'il y a eu un problème d'interprétation de loi, parce qu'il y a l'article 8 du Code des marchés publics dont le gouvernement faisait allusion. Et le FMI pense que, bon, la valeur des marchés conclus, ça devrait donner lieu à concurrence. Et aujourd'hui, je crois que l'équivoque est levé. Ils sont convenus que dorénavant, que ça soit soumis à concurrence. Donc, moi, je crois que c'est une grande avancée, parce que si les textes ne sont pas clairs de part et d'autre, ça peut donner lieu à interprétation. Mais je ne suis pas d'accord que l'argent du contribuable malien et l'argent du contribuable d'autrui soient détournés à d'autres fins. Donc, s'il s'avère que des actes ont été commis dans ce sens-là, le peuple a besoin d'être édifié. Et ceux-là qui sont reconnus coupables, en tout cas ceux-là qui sont qui ont eu à faire ces forfaits-là doivent être traduits devant les tribunaux.
Mmh. Alors aujourd'hui, Zoumane Anti Doumbia, vous êtes du groupe Alliance pour le Mali. À peine le Premier ministre boucle sa tournée à Bruxelles, et on sait que ces contrats concernaient en grande partie le ministère de la Défense. L'ancien ministre de la Défense, Soumaïlou Boubey Maïga, est en garde à vue en France. Pensez-vous qu'il y a un lien aujourd'hui entre sa gestion et son arrestation?
Bon, vous allez m'excuser, peut-être que j'ai une déformation professionnelle, juriste que je suis. Je ne saurais m'aventurer sur ce terrain-là. Garde à vue n'est pas synonyme de culpabilité. Et je crois que même si, par extraordinaire, il est mis en examen, il bénéficie de la présomption d'innocence jusqu'à ce qu'il y ait un procès. Et de là à vouloir dire qu'il y a une jonction, bon, je ne saurais m'aventurer sur ce terrain-là, ne connaissant pas les tenants et les aboutissants. Et c'est dans ce studio-là ici que j'apprends qu'il est en garde à vue. Donc, excusez-moi, je ne pourrais pas me prononcer par rapport à ça. Mais donnons le temps au temps. Et nous serons édifiés dans les prochains jours par rapport à tout ce qui se passe.
La visite du Premier ministre Moussa Mara à Bruxelles comportait également en toile de fond la question de la paix et de la réconciliation. Il a dit à nos confrères de RFI que l'État malien dit non à toute idée d'autonomie tout en laissant la porte ouverte à des concessions sur la délégation de pouvoir dans les différentes régions du Mali. C'est quoi le juste milieu, selon vous, Seydou Dembélé, du groupe parlementaire Rassemblement pour le Mali? Seydou Dembélé, du groupe parlementaire RPM.
Oui.
Alors, la visite du Premier ministre était également axée sur la paix et la réconciliation. Au moment où les groupes armés demandent carrément l'autonomie, le Premier ministre dit non à toute idée d'autonomie, mais une large autogestion pour les différentes régions du Mali. Selon vous, qu'est-ce qui représente le juste milieu entre ces deux-là?
Bon, je crois que entre autonomie, entre régional, il n'y a pas de juste milieu. Les partis prenants se sont retrouvés à Alger, en pourparler. C'était à la suite d'une feuille de route. Et la feuille de route précise ce qui peut être discuté et ce qui ne peut pas être discuté. Et en dehors de l'unicité du pays, de la laïcité, du caractère républicain de l'État, on dit que tout peut être discuté. Et nous pensons qu'avec l'approfondissement de la décentralisation, par la régionalisation, qui déplace le centre du développement de la commune à la région, nous pensons que toutes les régions du Mali, ce n'est pas seulement le Nord, toutes les régions du Mali peuvent trouver leur compte en matière de développement. Mais nous disons non à toute velléité d'autonomie. Nous disons non à toute velléité de fédéralisme, encore moins d'indépendance. Donc il n'est pas prudent de vouloir parler de juste milieu entre les deux.
D'accord. Ce point de vue est compris. Nous allons juste observer quelques secondes de pause avant de faire réagir les deux autres invités dans ce studio par rapport à cette visite et à ce volet consacré à la paix et à la réconciliation dans le nord du Mali.
Une réaction.
Un avis.
Un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Le Grand Dialogue du Parlement avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux et l'appui financier de l'USAID.
Merci de nous rester fidèles. Jetez-y un œil sur notre site web www.studiotamani.org ou sur notre page Facebook où les débats continuent. Nos invités vont nous parler sur ces trois thématiques. Nous sommes donc à la troisième partie de ce débat consacré à l'annonce de la rupture des négociations entre l'UNTM et le gouvernement du Mali. À titre de rappel, c'est le septième numéro du débat du Parlement qui bénéficie du soutien du gouvernement américain. Nos invités pour parler donc de ces thématiques, c'est Sédou Diawara du groupe Vigilance républicaine et démocratique, Zoumana Nti Doumbia du groupe Alliance pour le Mali et par téléphone Sédou Dembélé du groupe parlementaire Rassemblement pour le Mali. Alors juste avant d'entamer cette troisième partie, nous allons permettre aux deux autres invités dans ce studio de réagir par rapport à cette question. Le Premier ministre dit que le gouvernement ne renonce pas, mais n'est pas d'accord pour quelques idées d'autonomie que ce soit évoquées par les groupes armés dans le Nord. Est-ce que vous pensez qu'il y a un juste milieu entre les lignes rouges du gouvernement et la détermination des groupes armés Zoumana Nti Doumbia?
Comme l'a dit l'honorable Dembélé, moi je ne parlerai pas de juste milieu. Je crois que nous avons, au niveau du groupe parlementaire APM, nous avons une logique très claire, nous avons une vision très claire. Nous disons, il ne peut pas y avoir de protectorat au nord du Mali. Nous disons aussi qu'il ne peut pas y avoir un État fédéral au Mali. Donc, à partir de cet instant-là, les lignes rouges sont tracées et c'est non négociable. Et nous pensons que, en fait, avec la décentralisation poussée, nous parviendrons à trouver, en tout cas, les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Il est bien de rappeler que la régionalisation ne va pas concerner seulement les régions du Nord, mais toutes les régions du Mali. Donc, nous pensons que ça peut être une solution, en tout cas au développement, au problème de développement posé au niveau des différentes régions du Mali. Parce que c'est que les gens oublient souvent, il n'est pas dit que les autres régions sont aussi des lieux d'opulence. Non. Dans beaucoup de régions du Mali, c'est qu'on broie du noir. Donc nous pensons qu'avec la régionalisation, ça peut permettre aux différentes régions en tout cas, d'accès ou bien d'amorcer leur développement réel. Donc, juste milieu, nous pensons non, mais nous avons une vision très claire. Pas de protectorat, pas de fédéralisme. En tout cas, nous sommes opposés à toute idée de sécession ou de fédéralisme.
Alors, Sédou Diawara du groupe Vigilance républicaine de l'opposition. Donc, pensez-vous qu'il y ait, comme je l'ai posé aux autres invités, un juste milieu entre la détermination des groupes armés et les lignes rouges de Bamako?
Bon, j'emboîte les pas à mes prédécesseurs. Vraiment, il ne va pas ce que vous appelez solution médiane. Mais je crois qu'il faut rester dans le cadre de la feuille de route.
De
Ouagadougou, quand même qui préserve l'intégrité du territoire malien, le caractère laïque de la République, reste ici important. C'est le gouvernement qui doit aller en face de ceux qui ont une revendication d'autonomie ou de fédéralisme. Et ils ont travaillé sur le document, qu'il soit bon ou mauvais, ils vont le présenter, ils sont à une table de négociation. Il appartiendra au gouvernement maintenant de donner un contenu à ce qu'ils pensent être la solution meilleure. On parle de régionalisation, mais aujourd'hui, combien de Maliens connaissent le contenu de cette régionalisation? Quand on va une discussion du genre, il faut être prêt, il faut avoir les idées claires, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Régionalisation, ça demande plus d'implication, en tout cas des populations, dans la gestion de leur territoire.
Pensez-vous que le gouvernement n'a pas assez communiqué sur cette méthode?
Je ne peux pas le dire. Nous, en tant que groupe politique, nous ne pouvons pas dire avoir été associés aux travaux préparatoires des discussions. Au-delà de tout ce qui s'est dit ici dans la presse aujourd'hui, quel est le schéma que le gouvernement a avec lui? Ils sont en face des gens qui revendiquent, qui sont maximalistes, c'est la règle. de discussions du genre. Donc le gouvernement doit avoir une idée très claire de ce qu'il peut proposer comme mesure de gestion du terroir, de gestion des affaires publiques, en impliquant davantage, en tout cas, les populations et les collectivités locales. Je crois que ceci est important. Et le gouvernement doit se battre à ce niveau, donner un contenu par rapport à la simple évocation de la régionalisation n'est pas suffisant pour convaincre. Il faut le convaincre. Et ceux qui sont avec nos frères qui sont là à faire des revendications, nos partenaires qui sont là, qui nous assistent, vraiment chacun doit comprendre quelle est la lisibilité qu'on peut avoir par rapport à ce que le gouvernement propose comme solution de gestion. Et en tout cas, il faut le dire, les dialogues et les passages obligés. Une solution militaire résoudra difficilement cette question-là.
Ce conflit. Alors, nous allons passer de ce pas à la troisième partie de ce débat sur l'annonce de la rupture des négociations entre l'UNTM et le gouvernement. Les négociations entre l'UNTM et le gouvernement sont rompues. Le bureau exécutif de la centrale syndicale a décidé de ne plus négocier. Le syndicat envisage donc de déposer un préavis de grève dans les jours à venir. Le scénario des 48 heures du mois d'août va-t-il se répéter? Seydou Dembélé du RPM. Seydou est parti. Zoumananchi Doumbia du groupe Alliance pour le Mali. Est-ce que le scénario du mois d'août, les 48 heures de grève observées par l'UNTM, va-t-il se répéter?
Merci. Je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas. Et je crois quand même que aller à un bras de fer ne résoudra pas le problème. Je crois que et le gouvernement et les syndicats doivent revenir à la table des négociations, voir ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Sinon, un bras de fer, ce n'est pas le gouvernement qui va en pâtir surtout, mais c'est surtout les citoyens maliens que je suis, que je fais partie, qui va en souffrir. De quelle manière? Vous avez vu la fois dernière, quand, si nous prenons Bamako, en 48 heures, c'était comme une ville morte. Donc, vous savez aussi, un jour de perdu pour l'État, qu'est-ce que ça représente pour le trésor public? Donc, personne n'a à gagner dans cette histoire-là. Et les syndicats et le gouvernement, personne ne gagne en allant au bras de fer. Donc, en tout cas, moi, j'aurais souhaité que les différentes parties reviennent à la table de négociation, qu'ils voient ensemble ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. En tout cas, telle est ma position.
Alors, on me fait signe que Seydou Dembélé du groupe Rassemblement pour le Mali, RPM, est de retour. Seydou, vous êtes au téléphone. Pensez-vous que le scénario du mois d'août dernier, les 48 heures de grève observées par l'UNTM, puisse se répéter?
Bon, ce n'est pas souhaitable. Ce n'est pas souhaitable. Aujourd'hui, le pays est dans une crise. C'est que les revendications des travailleurs sont justes. Et ce qui est faisable le sera fait. Mais il faut comprendre cette situation. On n'a aucun intérêt aujourd'hui à voir le pays paralysé par une grève. Ça ne sera que des pertes de plus. Il faudrait que l'UNTM et le gouvernement aillent aux négociations. Dans les échanges, le gouvernement fera ce qui est possible et à l'UNTM d'accepter cela et de se donner un délai.
Alors,
Personne ne gagne dans un bras de fer.
D'accord. Alors, merci Seydou Dembélé. Vous restez avec nous. Seydou Diawara du groupe Vigilance Républicaine et Démocratique, groupe parlementaire de l'opposition. Nous venons de parler de cette hypothèse que la grève puisse, la centrale puisse remettre ça. Le gouvernement du Mali évoquait une incidence budgétaire de 17 milliards après la concession du mois d'août. Cette deuxième vague passera-t-elle sur plus de fonds que ça? Bon. Il y aura plus d'impact, selon vous?
Merci bien. Je ne connais pas trop les points de revendication qui ont fait l'objet des discussions et encore moins leur incidence. Je pense que une revendication du genre, c'est dans l'ordre normal des choses, ça c'est dans tous les pays. En tout cas, les organisations syndicales défendent les intérêts des travailleurs. Et il appartient au gouvernement de créer les conditions favorables à un dialogue. Je crois que cela est important. Je me rappelle bien quand un ministre a passé, on avait attiré son attention, vraiment, d'anticiper, en tout cas sur les revendications sociales, en créant ces cadres-là avec les employeurs, avec les différents syndicats, avec le gouvernement. Chacun vient avec ses propositions. Il s'agit maintenant, il ne s'agit pas d'accepter, d'exécuter tout à la minute, non. En discutant bien, en reconnaissant la justesse, en connaissant la charge que cela peut amener, et en étalant les moyens que l'État a, on peut se donner un chronogramme à court, moyen et long terme, donc une plateforme à laquelle tous les partenaires sociaux vont adhérer. Je crois que c'est ce qui a manqué à cela.
Alors aujourd'hui, les discussions sont rompues. Pensez-vous que l'État n'a pas tiré les leçons du passé?
Non, une rupture, ça, c'est dans l'ordre normal des négociations. Ce ne serait pas la fin du monde. C'est que sur les syndicats vont venir à la table des négociations. Oui. Encore que c'est au gouvernement d'avoir une force de persuasion, de proposition, en tout cas pour l'amélioration de conditions des travailleurs. Les syndicats, en faisant des propositions, certainement ils ont dû faire des calculs, ils ont dû faire des estimations. Le gouvernement aussi doit les faire dire ce que l'État peut, ce que l'État ne peut pas. Maintenant, en acceptant les points, on fait une évaluation, on accepte un chronogramme. Je crois que ça c'est dans l'ordre normal des choses.
Alors, à titre de rappel, au moins 5 points étaient en discussion, notamment la révision du SMIC, le salaire minimum, la hausse. Le salaire minimum est actuellement de 31 300. Doit-il ou peut-il aller au-delà, Zoumananti Doumbia, du groupe APM?
Je suis un très mauvais économiste. Donc, m'aventurer sur ce terrain n'est pas très aisé pour moi. Mais je m'en tiens un peu...
En tant qu'élu, vous avez votre mot à dire.
Non, en tant qu'élu, pour pouvoir se prononcer, il faut connaître d'abord quels sont les revenus du gouvernement, de l'État du Mali. Parce qu'il est même interdit à un député d'augmenter les charges sans pour autant en apporter en tout cas, la contrepartie au niveau des revenus. Donc, ne sachant pas en réalité ce qui est possible de la part du gouvernement, s'aventurer sur ce terrain ne serait pas très bon. Mais dans tous les cas de figure, nous demandons aux différentes parties, vraiment, compte tenu de l'état de déliquescence dans lequel se trouve notre pays aujourd'hui, et compte tenu de toutes les crises que nous traversons, qu'ils arrivent à un meilleur arrangement. Et que nous demandons aussi aux syndicats, ce qui est sûr, c'est dans l'ordre normal des choses, comme l'a rappelé l'honorable Diawara, de revenir à la table des négociations et encore une fois de voir avec le gouvernement ce qui est faisable tout de suite et ce qui est faisable à moyen terme et ce qui est faisable à long terme. Mais c'est comme ça seulement qu'on arrivera à construire un État. Sinon, je ne pense pas que le bras de fer ait gagné quoi que ce soit ou bien ait apporté quoi que ce soit.
Alors, concernant ce salaire minimum, l'opposition a-t-elle un mot à dire par rapport à l'augmentation de ce salaire minimum, parmi tant d'autres?
Non, je dis que quand les travailleurs le demandent, c'est que c'est nécessaire. Quand le SMIC est à quel niveau aujourd'hui?
31 000.
Vous êtes, que vous soyez économiste ou pas, vous êtes responsable. Un travailleur avec 31 000 francs de salaire, dans les conditions actuelles au Mali, qu'est-ce que cela vaut? Mais il faut dire qu'on a toujours évoqué la transparence des finances publiques. Il y a assez de dépenses somptuaires. En l'évoquant, ce n'est pas par plaisir. Nous savons qu'on peut bien restreindre, on peut bien morader les dépenses publiques au Mali. Pour le simple cas du contrat de 69 milliards, c'est que je lisais dans un journal, l'écart entre les factures présentées à la banque pour paiement aux fournisseurs et le marché, il y a un écart de 25 milliards qui peuvent être justifiés par quoi? Mais les travailleurs voient cela, des cas de surfacture. Ça, c'est un seul cas. Il faut les voir à l'échelle de la République. Pensez qu'ils n'ont pas le droit de revendiquer. Personne ne souhaite mettre le pays en lambeaux. comme je l'ai dit, en créant ce cadre de concertation, l'État connaît ses moyens. En réduisant les trains de vie de certaines manières, on peut faire des économies. On peut toujours réfléchir comment sécréter de nouvelles ressources.
Merci beaucoup, Sédou Dembélé, Sédou Diawara du groupe Vigilance Républicaine et Démocratique. Cette émission est terminée. Cette émission est rendue possible par le soutien du peuple américain à travers l'Agence américaine pour le développement international. Le contenu de cette émission est de la seule responsabilité du studio Tamani et ne reflète pas nécessairement les points de vue de l'USAID ou du gouvernement des États-Unis. Alors, cette émission était le 7e numéro du débat du Parlement qui était animé par moi-même, Famoussa Sidibé, assisté à la réalisation par Sekou Gadigo. À la technique, il y avait Salim Djouara, nos invités, Sédou Diawara du groupe VRD, Zoumana Ntidoumbia du groupe APM et Sédou Dembélé du groupe parlementaire RPM, tous à l'Assemblée nationale. Nous vous disons bon week-end, bonne fête et à lundi pour un autre débat.
Grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani wa Makaran.
Le grand dialogue du Parlement avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux et l'appui financier de l'USAID.
Chen Nibiru.
Halou Dmouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.